Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Frédéric Rouvillois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit, vous avez beaucoup écrit sur le conservatisme, sur le progressisme, le snobisme et la politesse. Et aujourd'hui, vous publiez « Politesse et politique » aux éditions du CERF, un essai dans lequel vous vous inquiétez du recul du savoir-vivre. La démocratie est inséparable pour vous de la politesse ?
Je dirais la démocratie en particulier, mais la civilisation en général. Et voilà, c'est vraiment ça qui, effectivement, suscite mon inquiétude, qui n'est pas seulement lié au recul de la politesse, mais qui est lié au recul conjoint, justement, au fond, du politique et de la politesse. J'essaie de montrer qu'il y a une liaison étroite entre les deux et que la menace pèse sur l'une et sur l'autre.
En fait, la politesse serait inséparable de la politique et pas de la démocratie.
Exactement, c'est ça. Du reste, c'est ce que montre l'histoire longue, hein, depuis l'Antiquité romaine jusqu'à nos jours. Chaque fois que l'autorité politique s'est effondrée, la politesse, c'est-à-dire finalement des rapports sociaux fluides et agréables entre les personnes, s'est effondrée également. Voilà, on peut vraiment tracer un parallèle entre les deux. Et l'objet de mon livre, c'est de me demander finalement pourquoi, comment et quelle est la menace finalement qui pourrait être derrière.
Il y a un débat depuis quelques années, Frédéric Rouvillois, sur la politesse, et on se demande si elle est de droite ou de gauche.
Justement, dans la mesure où elle est derrière la civilisation en général, j'essaie de montrer que, a priori, on aurait plutôt la tendance à se dire qu'elle est de droite, parce qu'il y a une dimension conservatrice, il y a la thématique de la tradition, de la transmission, l'importance de la famille, enfin, toute une série de valeurs qui sont plutôt connotées à droite. Mais en fait, quand on regarde un petit peu les grands penseurs qui ont évoqué la question, on a autant des penseurs de droite que des penseurs de gauche, et voilà, on a aussi bien La Bruyère que Kant, Bergson, etc.
C'est vrai que la politesse suppose la reconnaissance des différences, des hiérarchies, des usages, des bonnes manières, des traditions. Elle respecte l'ordre établi, elle favorise l'entre-soi. En ce sens, on pourrait dire qu'elle est de droite. Mais vous dites aussi qu'elle implique un égal respect de tous, et ça, ce serait plutôt de gauche.
Oui, c'est ça. Alors, la politesse n'est pas du tout égalitaire, mais elle nécessite effectivement que on considère autrui comme une personne. Et finalement, on parle beaucoup des élections en Inde, là. Dans les systèmes de caste, par exemple, il est clair que il y a une telle séparation entre les différents segments de la population que celui qui appartient à une caste donnée considère que les autres ne sont pas véritablement des êtres humains et par conséquent ne lui doit aucune politesse. Dans l'Antiquité, on n'est pas poli avec les esclaves. Et parfois, sous l'Ancien Régime, même, je cite un exemple qui est assez croustillant, je trouve, avec Madame du Châtelet, donc la maîtresse de Voltaire, qui se comportait avec ses domestiques, notamment masculins, exactement comme s'il était des choses.
Oui, et c'est elle qui a écrit le discours sur le bonheur, très célèbre, Émilie du Châtelet. Le conservateur Edmund Burke dit que les manières sont plus importantes que les lois. C'est d'elles que les lois dépendent, car les manières agissent sur nous en permanence, elles donnent une forme à la vie sociale et aux rapports humains, en fait. Hein.
C'est ça. Et par conséquent, elles constituent une sorte de substrat, effectivement, des rapports sociaux. On y revient après tout à l'heure, mais effectivement, il faut toujours se rappeler que politesse, ça vient non seulement de polis, la cité grecque, mais également de l'idée d'avancer, de polir ces rapports, de les rendre aussi fluides que possible. Et par conséquent, c'est la finalité même de cette politesse, d'éviter finalement les frictions, les frottements, les conflits et la violence.
Mais quelqu'un comme Victor Hugo, qui est très différent d'Edmond Burke,
c'est sûr.
qu'on qualifierait plutôt de gauche, lui parle de la politesse comme de la politesse du cœur, hein, la véritable politesse. Ce qu'il oppose aux rondes jambes et aux simagrées.
Oui, mais en fait, d'abord, l'une et l'autre ne sont pas forcément incompatibles. Mais d'autre part, contrairement à Voltaire, et je dirais aussi plus fondamentalement, contrairement à Alceste, le misanthrope de Molière, il faut bien se rendre compte que, même hypocrite, la politesse est utile et même indispensable, et qu'il vaut mieux faire des ronds de jambes à quelqu'un qui a envie d'avoir des ronds de jambes, plutôt que de lui faire la gueule et d'avoir les conséquences ensuite.
Mais néanmoins, j'insiste sur l'hypocrisie, parce que c'est toujours ce que l'on reproche à la politesse. Rappelons-nous de Fontenoy. On voit dans la politesse une condition de la concorde, de la politique, donc entre les individus, mais ça n'empêche pas la guerre. À la bataille de Fontenoy, vous vous souvenez de oui, la phrase « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». « Nous n'en ferons rien », avaient répondu les Anglais. On était en plein dans la guerre en dentelle avec sa politesse extrême, mais c'était quand même la guerre.
La politesse n'empêche pas la guerre, et là, en l'occurrence, elle se superpose finalement à la guerre. Et c'est pour ça qu'elle nous paraît, au fond, incongrue, parce qu'effectivement, quand on fait la guerre, on n'est plus dans des rapports qui devraient être des rapports polis. On peut être dans des rapports moraux, on peut être dans des rapports juridiques, mais pas la politesse, c'est un petit peu exotique, en l'occurrence. Hein. Justement, l'objectif de la guerre, de la politesse, si je puis dire, c'est vraiment ça. C'est d'éviter de la politesse, c'est d'éviter la guerre.
Oui. La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, disait Clausewitz. Cela dit, quand je dis que la guerre en dentelle, ça n'évitait pas la guerre, ça invitait quand même de bombarder des civils, des femmes et des enfants. Hein. À l'époque, la guerre se résumait à un affrontement entre professionnels, ce qui nous dispensait de haïr l'ennemi et de vouloir son éradication.
Oui, oui, c'est disons que la politesse est un peu saupoudrée par-dessus, ça change pas grand-chose au problème. En revanche, ça change beaucoup de choses aux relations humaines du quotidien, et c'est en ce sens que, voilà, il s'agit d'un sujet vraiment politique.
On fait une pause, Frédéric Rouvillois, on y revient tout de suite après.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï. Nous sommes ce matin avec Frédéric Rouvillois, professeur de droit qui publie « Politesse et politique » aux éditions du CERF. C'est vraiment un sujet d'actualité, la politesse. Hein. Vous tombez bien, j'ai l'impression.
Oui, vraiment un sujet d'actualité. Et je ne sais pas si vos auditeurs se rappellent, je crois que c'est il y a 4 jours, au Parlement géorgien, des députés qui se sont vraiment tapés dessus au sujet d'une loi dont certains voulaient et d'autres ne voulaient pas. Voilà, on a vraiment un exemple du fait que la politesse et la politique, même si elles sont très, très étroitement liées, peuvent également, dans certains cas, être en conflit.
Et c'est il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Géorgie. On a eu quelques événements ces dernières années à notre Chambre des députés, à nous, où on s'est posé la question de la politesse, tout à fait, comme si elle avait disparu.
Parce que ce qui est assez amusant avec la Ve République, vous savez que c'est un peu de
votre dada.
Non seulement mon dada, mais en plus ce sur quoi je travaille, puisque je suis professeur de droit constitutionnel. Sous la Ve République, en fait, le Parlement s'est relativement calmé par rapport à ce qu'il était, notamment sous la Troisième République, qui est un peu l'âge d'or de la puissance du Parlement. Et les injures, les impolitesses, etc., se sont plutôt transférées du côté de l'exécutif. Et je regardais encore tout récemment la manière dont Emmanuel Macron a congédié Mme Borne le 8 janvier dernier par un simple tweet. On est dans quelque chose qui est... C'est une espèce de récusation des formes, du respect, de ce qui fait justement la politesse, a fortiori. Donc d'abord au sommet de l'État et en plus avec une dame, donc ça ne se fait pas.
Mais la politique dont vous dites qu'elle est inséparable de la politesse, c'est tout de même l'art de conquérir le pouvoir et de s'y maintenir. Ce ne sont pas les gens les plus polis qui réussissent, au contraire, ce sont des brutes. C'est ceux qui ne s'embarrassent pas de civilité, ceux qui sont capables de tout. C'est un métier où il faut savoir tuer le père, il faut savoir trahir ses amis, oublier ses promesses ou tromper ses électeurs. Même les plus grands sont passés par là.
Oui, mais là encore, il ne faut pas confondre, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas confondre la morale et la politesse. La politesse peut être parfaitement amorale ou immorale, si vous voulez. Vous pouvez très bien ne rien penser de sympathique à la personne que vous allez saluer avec componction ou à qui vous allez écrire.
Oui, vous pouvez trahir vos amis, mais il faut le faire poliment. C'est ça que vous me dites.
Disons que voilà, si on veut éviter une guerre de tous contre chacun, si on veut éviter de retomber dans le fameux l'état de nature de Hobbes où l'homme est un loup pour l'homme, il vaut effectivement mieux connaître les règles de politesse et les appliquer.
La montée de ce que l'on appelle les incivilités ou la décivilisation, c'est le reflet de quoi pour vous ?
D'abord, c'est un paradoxe, parce que ça arrive au moment où, manifestement, c'est ce que montrent les sondages, les Français ont quand même de plus en plus le sentiment que la politesse est une chose importante et même, je dirais, presque indispensable à la vie quotidienne, spécialement dans des époques de crise, lorsque la vie devient plus difficile. Et en même temps, si j'ose dire, on a ce phénomène, cette montée des incivilités, multiformes sur tous les plans, etc. On parle beaucoup des jeunes, mais ça ne concerne pas qu'eux, qui me semble lié justement aussi à cette effondrement de la politique que traduit entre mille autres choses l'abstention électorale, c'est-à-dire un sentiment de désaffiliation, le sentiment qu'on appartient plus vraiment, fondamentalement, à un groupe social auquel on doit quelque chose, et notamment respecter les règles du jeu. Et voilà, et ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait singulier et très inquiétant. Donc, c'est, si vous voulez, c'est l'individualisme radical combiné à d'autres éléments. Une sorte d'utilitarisme philosophique, l'idée que finalement je ne dois rien à personne sauf à moi-même, et naturellement les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, le téléphone portable du matin au soir et du soir au matin, en particulier chez les jeunes, accentue encore cette espèce d'autisme social.
Frédéric Rouvillois, et l'autorité dont Gabriel Attal se veut le champion, il l'a rappelé cette semaine avec son plan pour remettre l'autorité au cœur de la République. Est-ce que l'autorité est compatible avec la politesse? Quand on parle d'autorité, on pense à l'armée. Quand on vous donne des ordres, on n'estime pas la nécessaire d'être poli. Et pourtant, ce n'est pas non plus de l'impolitesse.
Enfin, non seulement c'est compatible, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, mais c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus d'autorité, justement, il n'y a plus de société, il n'y a plus de politesse. Et si on regarde un petit peu l'histoire, on s'aperçoit avec saisissement et un peu avec effroi que les périodes d'anarchie complète, les périodes de révolution grave, de crise grave, il y a un exemple qui est absolument frappant, c'est les guerres et le lendemain des guerres. Mais les guerres, je pense en particulier à 1940, la débâcle, l'exode, pendant un mois, les Français sont jetés sur les routes sans aucune autorité, sans aucune structure. Tout a disparu, toutes les structures du pouvoir et de l'État se sont évanouies. Et le résultat, c'est une espèce de régression totalement sauvage. Effectivement, les gens font n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment, quel qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, même s'ils ont appris par cœur les manuels de politesse de Manuel de la Baronstaff. Donc oui.
La démocratie, c'est que l'on n'est pas forcément d'accord, mais qu'on peut vivre ensemble. Sinon, c'est la guerre civile. Mais pour vivre ensemble, il faut des règles de savoir-vivre, des règles de politesse. C'est là que la politique et la politesse sont inséparables pour vous ?
Oui, c'est-à-dire que si effectivement on refuse la politesse, c'est-à-dire qu'on ne joue pas le jeu, finalement. La démocratie, plus encore que d'autres systèmes politiques, suppose qu'on accepte effectivement les règles du jeu, qui sont des règles, en un sens, irrationnelles et aberrantes, puisqu'on fait comme si, effectivement, les autres étaient égaux, et comme si n'importe qui avait le même pouvoir, finalement, par rapport à l'État. Donc, effectivement, on est dans un système de règles du jeu au niveau politique. Si on ne respecte pas les règles du jeu au niveau social et qu'on ne se comporte pas de manière respectueuse à l'égard d'autrui, eh bien, tout s'écroule.
Merci, Frédéric Rouvillois. Je renvoie à la lecture de votre livre « Politesse et politique ». Ça vient de paraître aux éditions du CERF.
Merci.
Et nous, on a maintenant rendez-vous avec Esther Creuset-Delbourg. C'est une spécialiste de l'eau. Et oui, il a beaucoup plu ces dernières semaines, au grand désespoir des Parisiens notamment. On va voir avec elle quelles vont être les conséquences. Europe 1.